Chapitre 3. Comment mon oncle fit la rencontre d'un vieux sergent et d'un caniche, ce qui l'empêcha d'aller chez M. Minxit. Le lendemain, à 8 heures du matin, mon oncle était frais et accommodé. Il n'attendait plus pour partir qu'une paire de souliers que devait lui apporter Cicéron, ce fameux préconiseur dont nous avons déjà parlé et qui cumulait la profession de cordonnier avec celle de tambour. Cicéron ne tarda pas à arriver. À cette époque, de bonne franquette, c'était la coutume quand un ouvrier apportait de l'ouvrage dans une maison qu'on ne le laissa pas sortir sans lui avoir fait boire quelques verres de vin. C'était un mauvais genre, j'en conviens, mais ces procédés bienveillants rapprochaient les conditions. Le pauvre savait gré au riche les concessions qu'il lui faisait et ne le jalousait point. Aussi a-t-on vu, pendant la Révolution, d'admirables dévouements de serviteurs envers leurs maîtres, de fermiers envers leurs seigneurs, d'ouvriers envers leurs patrons, qui, à notre époque de morgue insolente et de ridicule orgueil, ne se reproduiraient certainement plus. Benjamin pria à sa sœur d'aller tirer une bouteille de vin blanc pour trinquer avec Cicéron. Sa sœur en tira une, puis deux, puis trois, et jusqu'à sept. « Ma chère sœur, je vous en prie, encore une bouteille. »« Mais tu sais donc pas, malheureux, que tu en es déjà à la 8e ?»« Mais vous savez bien, chère sœur, que nous ne comptons pas ensemble. »« Mais tu sais pas, toi, que tu as un voyage à faire. »« Allez, encore cette dernière bouteille et je pars. » Oh oui, tu es dans un bel état de partir. Et si on allait te chercher pour visiter un malade? Mais vous savez peu, ma bonne sœur, apprécier les effets du vin. On voit bien que vous ne buvez que les eaux limpides du Beuvron. Faut-il partir? Mon centre de gravité est toujours à la même place. Faut-il saigner? Mais à propos, ma sœur, il faut que je vous saigne. Machecourt me l'a recommandé en partant. Vous vous plaignez ce matin d'un grand mal de tête, une saignée vous fera du bien. » Et Benjamin de tirer sa trousse, et ma grand-mère de s'armer des pincettes. « Diable, vous faites une malade bien récalcitrant. Eh bien, transigeons, je vous saignerai point, et vous irez vous tirer une 8e bouteille de vin. »« Non, je n'en tirerai pas un verre. »« Ben, ce sera donc moi qui la tirerai, » dit Benjamin. Et prenant la bouteille, il se dirigea vers la cave. Ma grand-mère, ne voyant rien de mieux à faire pour l'arrêter, se pendit à sa queue, mais Benjamin, sans s'occuper de cet incident, s'en alla à la cave d'un poids aussi ferme que s'il n'eût eu qu'un paquet d'oignons au bout de la queue, et revint avec sa bouteille pleine. Eh bien, ma chère sœur, c'était bien la peine d'aller deux à la cave pour une méchante bouteille de vin blanc. Mais je dois vous prévenir que, si vous persistiez dans ces mauvaises habitudes, vous me forceriez à faire couper ma queue. » Cependant, Benjamin, qui tout à l'heure regardait comme une corvée assommante le voyage de Corvol, s'obstinait maintenant à partir. Ma grand-mère, pour lui en ôter la possibilité, avait enfermé ses souliers dans l'armoire. « Je vous dis que je partirai. »« Mais je te dis que tu ne partiras pas. » « Mais voulez-vous que je vous porte ce monsieur Minxit au bout de ma queue ?» Tel était le dialogue qui avait eu lieu entre le frère et la sœur, quand mon grand-père arriva. Il mit fin à la discussion en déclarant que le lendemain, il avait besoin d'aller à la chapelle et qu'il emmènerait Benjamin avec lui. Mon grand-père était sur le pied avant le jour. Quand il eut griffonné son exploit et écrit au bas « dont le coût est de 6 francs 4 sous 6 deniers, il essuya sa plume sur la manche de sa houppelande, serra précieusement ses lunettes dans leur fourreau, et alla éveiller Benjamin. Celui-ci dormait comme le prince de Condé, si le prince de Condé ne faisait semblant de dormir la veille d'une bataille. « Alors, hé, Benjamin, debout, il fait grand jour !» « Tu te trompes, » répondit Benjamin avec un grognement et se retournant du côté du mur. « Il fait nuit noire. » Lève la tête, tu verras la clarté du soleil sur le plancher. Mais je te dis, moi, que c'est la clarté du réverbère. Ah, ça, mais est-ce que tu ne voudrais pas partir? Non, j'ai rêvé toute la nuit de pain dur et de piquette. Si nous nous mettions en route, il pourrait nous arriver malheur. Eh bien, je te déclare, moi, que si dans 10 minutes tu n'es pas levé, je t'envoie à ta chère sœur. Et si au contraire tu es levé, je perds ce carton de vin vieux que tu sais bien. T'es sûr que c'est du pouilly, n'est-ce pas? Dit Benjamin, se mettant sur son séant. Tu m'en donnes ta parole d'honneur? Oui, foi d'huissier. Alors, va percer ton carton. Mais je te préviens que s'il nous arrive à l'encontre en route, c'est toi qui répondras à ma chère sœur. 1 heure après, mon oncle et mon grand-père étaient sur le chemin de Mulot. À quelque distance de la ville, ils rencontrèrent 2 petits paysans, dont l'un portait un lapin sous son bras et l'autre avait 2 poules dans son panier. Le premier disait à son compagnon, « Si tu veux dire à M. Cliquet que mon lapin est un lapin de Garenne et que tu ne l'as pas vu prendre au lacet, tu seras mon camarade. »« Je veux bien, » répondit celui-ci, « mais à condition que tu diras à Madame Déby que mes poules pondent 2 fois par jour et qu'elles font des œufs gros comme des œufs de car. »« Vous êtes 2 petits larrons, » dit mon grand-père. « Je vous ferai tirer l'un de ces jours les oreilles par monsieur le commissaire de police. » « Et moi, mes amis, » dit Benjamin, « je vous prie d'accepter chacun 7 pièces de 12 deniers. »« Oh, voilà de la générosité bien placée, » dit mon grand-père, haussant les épaules. « Tu donneras sans doute du plat de ton épée au premier pauvre honnête que tu rencontreras, puisque tu prostitues ta monnaie à ces 2 vauriens. »« Vauriens pour toi, Machecour, qui ne vois que la pellicule de chaque chose. » Mais pour moi, ce sont 2 philosophes. Ils viennent d'inventer une machine qui, bien organisée, ferait la fortune de 10 honnêtes gens. Et quelle est donc la machine, dit mon grand-père d'un air d'incrédulité, que viennent d'inventer ces 2 philosophes, que je rosserais d'importance, moi, si nous avions le temps de nous arrêter. Mais cette machine est simple, dit mon oncle. La voici telle qu'elle se comporte. Nous sommes 10 amis qui, au lieu de nous réunir pour déjeuner, nous réunissons pour faire fortune. Cela vaut au moins la peine de se réunir, interrompit mon grand-père. Bon, bien, nous sommes tous les 10, intelligents, adroits, rusés, même aux besoins. Nous avons le verbe haut, la discussion prestigieuse. Nous manions la parole avec la même adresse qu'un escamoteur manie ses muscades. Pour la moralité de la chose, nous sommes tous capables dans notre profession et les personnes de bonne volonté peuvent dire, sans trop se compromettre, que nous valons mieux que nos confrères. Nous formons, en tout bien et tout honneur, une société pour nous préconiser les uns les autres, pour insuffler, pour faire mousser et bulliférer notre petit mérite. « Oh, j'entends, » dit mon grand-père. L'un vend de la morora, n'a qu'une grosse caisse. L'autre du thé suisse, et n'a qu'une paire de cymbales. Vous réunissez vos moyens de faire du bruit, et... C'est cela même, interrompit Benjamin. Et tu conçois que si la machine fonctionne convenablement, chacun des sociétaires a autour de lui 9 instruments, qui font un vacarme épouvantable. Nous sommes 9 qui disons « L'avocat bâche, boit trop. » Mais je crois que ce diable d'homme fait infuser les feuilles de la coutume du Nivernais dans son vin, qu'il a mis la logique en bouteille. Toutes les causes qu'il lui convient de gagner, il les gagne, et d'autre jour, il a fait obtenir de fort dommages d'intérêt à un gentilhomme qui avait assommé un paysan. L'huissier parlementin est un peu retors, mais c'est l'Hannibal des huissiers. Sa contrainte par corps est inévitable. Pour lui échapper, il faudrait que son débiteur du pas de corps, il vous mettrait la main sur l'épaule d'un duc et père. Pour Benjamin Rattray, c'est un homme sans souci, qui se moque de tout et rit au nez de la fièvre. Un homme, si vous le voulez, d'assiette et de bouteille. Mais c'est précisément à cause de cela que je le préférerais à ses confrères. Il n'a pas l'air de ces médecins sinistres dont le registre est un cimetière. Il est trop gai et digère trop bien pour avoir beaucoup d'actes de décès à se reprocher. Ainsi, chacun des sociétaires se trouve multiplié par 9. Oui, dit mon grand-père, mais cela te donnera-t-il 9 habits rouges? 9 fois Benjamin Ratry, qu'est-ce que cela fait? Mais ça fait 900 fois Machecour, répliqua vivement Benjamin. Mais laisse-moi finir ma démonstration, tu plaisanteras après. Voilà donc 9 réclames vivantes qui s'insinuent partout, qui vous répètent le lendemain sous une autre forme ce qu'elles vous ont dit la veille. 9 affiches qui parlent, qui arrêtent les passants par le bras. 9 enseignes qui se promènent par la ville, qui discutent, qui font des dilemmes, des antimènes, et se moquent de vous si vous n'êtes point de leur avis. Et il résulte de là que la réputation de page, de rapin, de raterie, qui se traînait péniblement dans l'enceinte de leur petite ville, comme un avocat dans un cercle vicieux, prend tout à coup un essor étourdissant. Hier, elle n'avait pas de pied, aujourd'hui, elle a des ailes. Elle se dilate comme un gaz quand on a ouvert le bocal où il était enfermé. Elle s'épand par toute la province. Les clients arrivent à ces gens-là de tous les points du bailliage. Ils arrivent du sud et de l'Aquilon, de l'Aurore et du couchant, comme dans l'Apocalypse, les élus arrivent à la ville de Jérusalem. Et au bout de 5 à 6 ans, Benjamin Ratry est à la tête d'une belle fortune qu'il dépense avec grand fracas de verre et de bouteille en déjeuner et en dîner. Et toi, Machecour, tu n'es plus porteur de contraintes, je t'achète une charge de bailli. Ta femme est couverte de soie et de dentelle comme une sainte reine. Ton aîné, qui est déjà enfant de cœur, entre au séminaire. Ton cadet, qui est malingreux et jaune comme un serin des Canaries, étudie la médecine. Je lui cède ma réputation et mes vieux clients, et je l'entretiens d'habits rouges. Et de ton puidé, nous faisons un robin. Ta fille aînée épouse un homme de plume. Nous marions la plus jeune à un gros bourgeois, et le lendemain de la noce, nous mettons la machine au grenier. Oui, mais ta machine a un petit défaut. Elle n'est pas à l'usage des honnêtes gens. Pourquoi cela? Parce que les féons est immoral. Pourrais-tu me prouver cela par or et par donc? Bon, va te promener avec tes or et tes donc. Toi qui es un savant, tu raisonnes avec ton esprit. Moi qui suis un pauvre porteur de contraintes, je sens avec ma conscience. Je soutiens que tout homme qui acquiert sa fortune par d'autres moyens que par son travail et ses talents n'en est pas légitime possesseur. Mais c'est très bien ce que tu dis là, Machecour, s'écria mon oncle. Mais tu as parfaitement raison. La conscience est la meilleure de toutes les logiques, et le charlatanisme, sous quelque forme qu'il se déguise, est toujours une escroquerie. Eh bien, brisons notre machine, n'en parlons plus. Tout en devisant ainsi, ils approchaient du village de Morlo. Ils aperçurent, sur le seuil d'une porte de vigne, une espèce de soldat encadré profondément entre des ronces, dont les touffes brunes et rouges, meurtries par la gelée, tombaient pêle-mêle comme une chevelure en désordre. Cet homme avait sur sa tête un morceau de chapeau à cornes sans cocarde. Sa figure en ruine avait une teinte pierreuse, cette teinte dorée qu'ont les vieux monuments du soleil. Deux grandes moustaches blanches encadraient sa bouche comme deux parenthèses. Il était couvert d'un vieil uniforme. Sur une des manches s'étendait transversalement un vieux galon effacé. L'autre manche, dépouillée de son insigne, n'offrait plus qu'un rectangle qui se distinguait du reste de l'étoffe par une laine plus neuve et d'une nuance plus foncée. Ses jambes nues, enflées par le froid, étaient rouges comme des betteraves. Il laissait tomber d'une gourde quelques gouttes d'eau-de-vie sur de vieux morceaux de pain noir. Un caniche de la grande espèce était assis devant lui sur son derrière et suivait tous ses mouvements, pareil à un muet qui écoute avec ses yeux les ordres que lui donne son maître. Mon oncle eut plutôt passé outre devant un bouchon que devant cet homme. S'arrêtant sur le bord du chemin, « Camarade, dit-il, voilà un mauvais déjeuner. Bon, »« Moi, j'en ai fait de plus mauvais encore, mais Fontenoy et moi, nous avons bon appétit. »« Qui, Fontenoy ?»« Ben, mon chien, ce caniche que vous voyez. »« Diable, voilà un bon nom pour un chien. »« Au fait, la gloire est bien pour les rois. Pourquoi ne serait-elle pas pour les caniches ?» Bon, c'est son nom de guerre, poursuivit le sergent. Son nom de famille est Azor. Et pourquoi l'appelez-vous Fontenoy? Parce que, à la bataille de Fontenoy, il a fait un capitaine anglais prisonnier. Et comment donc cela? Fit mon oncle tout émerveillé. Oh, d'une manière fort simple, en l'arrêtant par une des bases de son habit jusqu'à ce que je puisse lui mettre la main sur l'épaule. Tel qu'il est, Fontenoy était bien l'ordre de l'armée et a eu l'honneur d'être présenté à Louis XV, qui a daigné me dire « Sergent Duranton, vous avez là un beau chien. » Ah, voilà un roi bien affable pour les quadrupèdes. Je m'étonne qu'il n'ait pas donné des lettres de noblesse à votre caniche. Et comment se fait-il que vous ayez quitté la service d'un si bon roi ? « Parce qu'on m'a fait un passe-droit, » dit le sergent, l'œil rutilant et la narine gonflée de colère. « Il y a 10 ans que j'ai ces guenilles d'or sur le bras. J'ai fait toutes les campagnes de Maurice de Saxe, et j'ai sur le corps plus de 6 cicatrices qu'il en faudrait pour faire 2 états de service. Il m'avait promis l'épaulette, mais nommé officier le fils d'un tisserand, c'était un scandale à faire horripiler toutes les ailes de pigeons du royaume de France et de Navarre. Ils m'ont fait passer sur le corps une espèce de petit chevalier tout frais clos de sa coquille de page. Ça saura se faire tuer tout de même, car ils sont braves, on peut pas leur refuser ça, mais ça se sait pas dire. Tête droite. » À cette parole de la théorie, fortement accentuée par le sergent, le caniche tourna militairement la tête à droite. « Tout beau, Fontenoy, » fit son maître. « Tu oublies que nous sommes retirés du service. » Et il reprit. « J'ai pu passer cela au roi, très chrétien. Et de ce moment, je me suis brouillé avec lui. Et je lui ai demandé mon congé, qui m'a gracieusement accordé. » « Vous avez bien fait, brave homme !» s'écria Benjamin en frappant sur l'épaule du vieux soldat. Geste imprudent, qui faillit le faire dévorer par le caniche. « Si mon approbation peut vous être agréable, je vous la donne sans restriction. Les nobles n'ont jamais nui à mon avancement, mais cela n'empêche pas que je les haïsse de tout mon cœur. »« Oh, ce cas, c'est une haine toute platonique !» interrompit mon grand-père. « Ah, dis plutôt une haine toute philosophique, Mâchecourt. La noblesse est la plus absurde de toutes les choses. C'est une révolte flagrante du despotisme contre le Créateur. Dieu a-t-il fait plus hautes les unes que les autres les herbes de la prairie? Et a-t-il gravé des écussons sur l'aile des oiseaux ou sur le pelage des bêtes fauves? Que signifient ces hommes supérieurs? Que fait un roi par lettre patente, comme il fait un gabeleur et un regrattier? À dater d'aujourd'hui, vous reconnaîtrez le sieur Tell pour un homme supérieur, signé Louis XV et plus bas Choiseul. Oh, que voilà une supériorité bien établie! Un vilain est fait compte par Henri IV parce qu'il a servi une bonne oie à cette majesté. Un chapeau avec loi, il était fait marquis. Il eût fallu ni plus d'encre ni plus de parchemin pour cela. Maintenant, les descendants de ces hommes ont le privilège de nous bâtonner, nous, dont les ancêtres n'ont jamais eu l'occasion d'offrir à un roi une aile de volaille. Et voyez un peu à quoi tiennent les grandeurs de ce monde. Si l'oie eût été un peu plus ou un peu moins cuite, qu'on eût mis une pincée de sel de plus ou une pincée de poivre de moins, qu'il fût tombé un peu de suie dans la trèche frite ou un peu de cendre sur les tartines, qu'on l'eût servi un peu plus tôt ou un peu plus tard, ben il y avait une famille noble de moins en France. Et le peuple courbe le front devant une pareille grandeur. Oh, je voudrais, comme Caligula le voulait du peuple romain, que la France n'eût qu'une seule paire de joues pour la souffleter. Mais dis-moi donc, peuple imbécile, quelle valeur trouves-tu donc aux deux lettres que ces gens mettent devant leur nom? Ajoutent-elles un pouce à leur taille? Ont-ils plus de fer que toi dans le sang? Plus de moelle cérébrale dans la boîte osseuse de leur tête? Pourraient-ils manier une épée plus lourde que la tienne? Ce de merveilleux guérit-il les écrouelles? Préserve-t-il son titulaire de la colique quand il a trop dîné ou de l'ivresse quand il a trop bu? Mais ne vois-tu pas que ces comtes, ces barons, ces marquis sont des majuscules qui, malgré la place qu'elles occupent dans la ligne, n'ont toujours que la valeur des simples lettres? Si un duc et pair et un bûcheron étaient ensemble dans une savane de l'Amérique ou au milieu du grand désert de Sahara, je voudrais bien savoir lequel des deux serait le plus noble. Leur trisaïeul maniait la rondache et ton père faisait des bonnets de coton. Qu'est-ce que cela prouve pour eux et contre toi? Viennent-ils au monde avec la rondache de leur trisaïeul au côté? Ont-ils ces cicatrices gravées sur leur peau? Qu'est-ce que cette grandeur qui se transmet de père en fils comme une bougie neuve qu'on allume à une bougie qui s'éteint? Les champignons qui laissent sur les débris d'un chêne mort sont-ils des chênes? Oh, quand j'apprends que le roi a créé une famille noble, il me semble voir un cultivateur planter dans son champ un grand rien de pavots qui infectera 20 sillons de sa graine et ne rapportera tous les ans que 4 grandes feuilles rouges. Cependant, tant qu'il y aura des rois, il y aura des nobles. Les rois font des comtes, des marquis, des ducs, pour que l'admiration monte jusqu'à eux par degrés. Les nobles, ce sont relativement à eux les bagatelles de la porte, la parade qui donne aux badauds un avant-goût des magnificences du spectacle. Un roi sans noblesse, ce serait un salon sans antichambre. Mais cette friandise de l'amour propre leur coûtera cher. Il est impossible que 20 millions d'hommes consentent toujours à n'être rien dans l'État pour que quelques milliers de courtisans soient quelque chose. Quiconque a semé des privilèges doit recueillir des révolutions. Le temps n'est pas loin, peut-être, où tous ces brillants écussons seront traînés dans le ruisseau et où ceux qui s'en décorent maintenant auront besoin de la protection de leurs valets. Et, me dites-vous, votre oncle Benjamin a-t-il dit tout cela? Et pourquoi pas? Tout d'une haleine? Sans doute. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant en cela? Mon grand-père avait un broc qui tenait une pinte et demie, et mon oncle le vidait tout d'un trait. Il appelait cela faire des tirades. Et ces paroles, comment ont-elles été conservées? Mon grand-père les a écrites. Il avait donc en plein champ tout ce qu'il fallait pour écrire. Mais quelle bêtise, non, un huissier. Et le sergent a-t-il encore quelque chose à dire? Certainement, il faut bien qu'il parle pour que mon oncle lui réponde. Or donc le sergent dit. Il y a 3 mois que je suis en route, je vais de ferme en ferme. Je dirais tant qu'on veut me supporter. Je fais faire l'exercice aux enfants. Je raconte nos campagnes aux hommes et Fontenoy amuse les femmes avec ses gambades. Je suis pas pressé d'arriver, car je ne sais pas trop où je vais. Ils m'envoient dans mes foyers et je n'ai pas de foyer. Il y a longtemps que le four de mon père est défoncé. J'ai les bras plus creux et plus rouillés que de vieux canons de fusil. Je crois tout de même que je retournerai dans mon village. Oh, c'est pas que j'espère y être mieux qu'en tout autre pays. La terre y est aussi dure qu'ailleurs. On n'y boit pas l'eau de vie dans les ornières. Mais qu'importe, j'y vais toujours. C'est comme un caprice de malade. Je serai la garnison du pays. Et s'ils veulent pas nourrir le vieux soldat, il faudra bien au moins qu'ils l'enterrent. Et, ajouta-t-il, ils auront bien la charité d'apporter sur ma fosse un peu de soupe à Fontenoy, jusqu'à ce qu'il soit mort de chagrin, car Fontenoy ne me laissera pas en aller tout seul. Quand nous sommes seuls et qu'il me regarde, il me promet cela, ce bon Fontenoy. Eh, voilà le sort qu'ils vous ont fait, répondit Benjamin. En vérité, les rois sont les plus égoïstes de tous les êtres. Si les serpents dont nos poètes parlent si mal avaient une littérature, ils feraient des rois le symbole de l'ingratitude. J'ai lu quelque part que Dieu, ayant fait le cœur des rois, un chien l'emporta, et que, ne voulant pas recommencer sa besogne, il mit une pierre à la place. Ça me paraît assez vraisemblable. Pour les Capets, c'est peut-être un oignon de lys qu'ils ont à la place du cœur. Et je défie qu'on me prouve le contraire. Parce qu'on a fait à ces gens-là une croix sur le front avec de l'huile, leur personne est auguste, ils sont majesté, ils sont nous au lieu de je. Ils ne peuvent mal faire. Si l'on venait de chambre les égratigner en leur passant leur chemise, ils seraient sacrilèges. Leurs petits sont des altesses, eux, ces marmots qu'une femme porte au poing dont le berceau tiendrait sous une cage à poulet, ils sont des hauteurs très hautes, des montagnes sérénissimes. On ferait volontiers dorer par le bout les mamelles de leurs nourrices. Si tel est l'effet d'un peu d'huile, quel respect aurions-nous donc pour les anchois qui marinent dans l'huile jusqu'à ce qu'on les mange. Chez la caste des sires, l'orgueil va jusqu'à la démence. On les compare à Jupiter tenant la foudre, et ils ne se trouvent pas trop honorés de la comparaison. La foudre, de moins, et ils se fâcheraient. Cependant, Jupiter a la goutte, et il faut deux valets pour le mener à sa table ou à son lit. Le rimeur Boileau a, de son autorité privée, a ordonné au vent de se taire, attendu qu'il allait parler de Louis XIV. Et vous, vent, faites silence, je vais parler de Louis. Et Louis n'a rien vu en cela que de très naturel. Seulement, il n'a pas songé d'ordonner au commandant de ses vaisseaux de parler de Louis pour apaiser les tempêtes. Ils croient tous, les pauvres fous, que l'espace de terre où il règne est à eux, que Dieu le donna à Eudes, fond et bréfond, pour en jouir, sans trouble ni obstacle, lui et ses descendants. Et qu'un courtisan leur dise que Dieu a fait la Seine tout exprès pour alimenter le grand bassin des Tuileries, ils le tiendront pour homme d'esprit. Ils regardent ces millions d'hommes qui sont autour d'eux comme une propriété dont on ne saurait, sous peine de pendaison, leur contester le titre. Les uns sont venus au monde pour leur fournir de l'argent, les autres pour mourir dans leur querelle. Et quelques-uns, qui ont le sang plus limpide et plus rose, pour leur procréer des maîtresses. Mais tout cela résulte évidemment de la croix qu'un vieil archevêque, de sa main caduque, leur a faite sur le front. Ils vous prennent un homme dans la force de la jeunesse, ils lui mettent un fusil entre les mains, un sac sur le dos, ils le marquent à la tête d'une cocarde, puis ils lui disent « Oh, mon confrère de Prusse a des torts envers moi, tu vas courir sus à tous ces sujets. Je les ai fait prévenir par mon huissier, qu'on appelle un héros, que le 1er avril prochain, tu auras l'honneur de te présenter sur la frontière pour les égorger, et qu'ils eussent à se tenir prêts pour te recevoir. » Entre monarques, ce sont des égards qu'on se doit. Oh, tu croirais peut-être au premier aspect que nos ennemis sont des hommes, mais ce ne sont pas des hommes, je t'en préviens. Ce sont des Prussiens. Tu les distingueras de la race humaine à la couleur de leur uniforme. Tâche de bien faire ton devoir, car je serai là, assis sur mon trône, qui te regarderai. Et si tu remportes la victoire, quand vous reviendrez en France, on vous amènera sous les fenêtres de mon palais. Je descendrai en grand uniforme et je vous dirai: soldats, je suis content de vous. Et si vous êtes 100 000 hommes, tu auras pour ta part un 100 000ième de ces 6 paroles. Au cas où tu resterais sur le champ de bataille, bon, ce qui pourrait fort bien arriver, j'enverrai ton extrait mortuaire à ta famille afin qu'elle puisse te pleurer et que tes frères puissent hériter de toi. Si tu perds un bras ou une jambe, je te les paierai ce qu'ils valent. Mais si tu as le bonheur ou le malheur, comme tu voudras, d'échapper au boulet, quand tu n'auras plus la force de porter ton sac, je te donnerai ton congé et tu iras crever où tu voudras. Ça ne me regardera plus. Voilà bien l'affaire, dit le sergent. Quand ils ont extrait de notre sang de phosphore dont ils ont fait leur gloire, ils nous jettent de côté, comme le vigneron jette sur le fumier le marc du raisin après en avoir pressuré la liqueur, comme l'enfant jette au ruisseau le noyau du fruit qu'il vient de manger. C'est très mal à eux, fit Machecourt, dont l'esprit était à Corvol et qui voulut y voir son beau-frère. Machecourt, dit Benjamin, le regardant de travers, choisis mieux tes expressions. Il n'y a pas ici matière à plaisanterie. Oui, quand je vois ces fiers soldats qui ont fait de leur sang la gloire de leur pays, obligés, comme ce pauvre vieux Cicéron, de passer le reste de leur vie dans une échoppe de savetier, tandis qu'un tas de pantins dorés accaparent tout l'argent de l'impôt, et que des prostituées ont pour s'envelopper négligemment le matin des cachemires dont un seul vaut tous les vêtements d'une pauvre ménagère, je suis exaspéré contre les rois. Si j'étais Dieu, je leur mettrais sur le corps un uniforme de plomb, et je les condamnerais à faire 1 000 ans de service dans la lune, avec toutes leurs iniquités dans leurs sacs. Les empereurs seraient caporaux. Après avoir repris haleine et s'être essuyé le front, car il suait, mon digne grand-oncle, d'émotion et de colère, il tira mon grand-père à part et lui dit: si nous faisions déjeuner avec nous chez Manette, ce brave homme et ce glorieux caniche. Objecta mon grand-père. Mais que diable, répliqua Benjamin, on ne rencontre pas tous les jours un caniche qui a fait un capitaine anglais prisonnier, et tous les jours on donne des fêtes politiques à des gens qui ne valent pas cet honorable quadrupède. Mais as-tu de l'argent? Dit mon grand-père. Moi, j'ai qu'une pièce de 30 sous que ta sœur m'a donnée ce matin, parce que je crois elle n'est pas bien marquée. Elle m'a bien recommandé de lui en rapporter au moins la moitié. Oh, moi, je n'ai pas un sou, mais je suis médecin de Manette, de même qu'elle est de temps en temps ma cabaretière, et nous nous faisons mutuellement crédit. Seulement, le médecin de Mariette, oh, qu'est-ce que cela te fait? Rien, mais je te préviens que je ne veux pas rester plus d'une heure chez Manette. Mon oncle déclina donc son invitation au sergent. Celui-ci accepta sans cérémonie et se plaça joyeusement entre mon oncle et mon grand-père, ce qui s'appelle en style de soldat emboîter le pas. Un taureau qu'un paysan menait au pré venait à eux. Offusqué, sans doute, par l'habit rouge de Benjamin, il fondit brusquement sur lui. Mon oncle esquiva ses cornes et, comme il avait des articulations d'acier, il franchit d'un saut, sans faire plus d'effort que s'il eût exécuté un entrechat, un large fossé qui séparait la route des champs. Le taureau, qui sans doute tenait à faire des estafilades à l'habit rouge, voulut opérer comme mon oncle, mais il tomba au milieu du fossé. C'est bien fait, dit Benjamin. Voilà ce que c'est que de chercher querelle à ceux qui ne songent pas à toi. Mais le quadrupède, obstiné comme un russe qui monte à l'assaut, ne se rebuta pas pour ses mauvais succès. Enfonçant ses sabots dans la terre à moitié dégelée, il cherchait à grimper le talus. Mon oncle, voyant cela, tira son épée, et tandis qu'il lardait de son mieux le mufle de l'animal, il appelait le paysan et s'écriait « Bonhomme, arrêtez votre bête, sinon je vous préviens que je lui passe mon épée au travers du corps !» Mais tout en parlant ainsi, il laissa tomber son épée dans le fossé. « Ôte ton habit et jette-le-lui bien vite !» s'écria Machecour. « Sauvez-vous dans les vignes !» disait le paysan. « Gzi, gzi, fonte-noi !» fit le sergent. Le caniche se jeta sur le taureau, et comme il savait son monde, il le mordit au jarret. La colère de l'animal se tourna alors contre le chien. Mais tandis qu'il faisait rage de ses cornes, le paysan arriva et parvint à passer un nœud coulant autour des jambes de derrière du taureau. Cette habile manœuvre eut un plein succès et mit fin aux hostilités. Benjamin redescendit sur la route. Il croyait que Machecour allait se moquer de lui. Mais celui-ci était pâle comme un linge et tremblait sur ses jambes. « Allons, Machecour, remets-toi, dit mon oncle. « Ou bien il faudra que je te saigne. Et toi, mon brave Fontenoy, tu as fait aujourd'hui une des plus jolies fables que celle de La Fontaine, intitulée « La colombe et la fourmi ». Vous voyez, messieurs, qu'un bienfait n'est jamais perdu. La plupart du temps, le bienfaiteur a la nécessité de faire crédit longtemps à l'obligé. Mais lui, Fontenoy, m'a payé d'avance. » Qui diable m'aurait dit que j'aurais jamais de l'obligation à un caniche ? Moulot est caché entre une touffe de saules et de peupliers sur la rive gauche du ruisseau du Beuvron, au pied d'une grosse colline dans laquelle monte la route de la chapelle. Quelques maisons du village étaient déjà remontées sur le bord du chemin, blanches et endimanchées comme des paysannes qui vont dans un lieu fréquenté par le beau monde. De ce nombre était le cabaret des Manettes. À l'aspect du bouchon qui pendait couvert de gloire à la lucarne du grenier, Benjamin se mit à chanter de sa voix de standard. « Alloy, ami, il faut faire une pause, j'aperçois l'ombre d'un bouchon !» À cette voix qu'elle connaissait bien, Manette accourut tout rouge sur le seuil de sa porte. Manette était une paysanne vraiment fort jolie, potelée, mafflue, toute blanche, mais peut-être un peu trop rose. Vous eussiez dit de ses joues une flaque de lait sur laquelle on eût fait tomber quelques gouttes de vin. « Messieurs, dit Benjamin, permettez-moi avant tout d'embrasser notre jolie cabaretière comme art du bon déjeuner qu'elle va nous préparer tout de suite. « Oui, da, monsieur Rassery, fit Manette se rejetant en arrière. Vous n'êtes pas fait pour les paysannes, vous. Allez donc embrasser mademoiselle Mincite. Il paraît que bon ça, mon oncle, que le bruit de mon mariage est déjà répandu dans le pays. Ça ne peut être que monsieur Mincite qui en ait parlé. Donc il tient à m'avoir pour gendre. Donc s'il ne reçoit pas aujourd'hui ma visite, ce ne serait pas une raison pour que la négociation fût rompue. Manette, ajouta-t-il, il ne s'agit pas ici de madame Mincite. Avez-vous du poisson ? Du poisson, fit Manette. Il y en a dans le vivier de monsieur Mincite. Je vous le répète, Manette, dit Benjamin, avez-vous du poisson ? Faites attention à ce que vous allez me répondre. « Eh bien, dit Manette, mon mari est allé à la pêche et il reviendra bientôt. »« Bientôt n'est pas notre affaire. Mettez-nous sur le gris autant de tranches de jambon qu'il en pourra tenir et faites-nous une omelette de tous les œufs qui sont dans votre poulailler. » Le déjeuner fut bientôt prêt. Pendant que l'omelette allait et venait et sautait dans la poêle, le jambon grillait. Or, l'omelette fut presque aussitôt expédiée que servie. Une poule met 6 mois pour faire 12 œufs. Une femme met un quart d'heure pour les convertir en omelette. Et en 5 minutes, 3 hommes absorbent l'omelette. Voyez, disait Benjamin, comme la décomposition va plus vite que la recomposition. Les contrées couvertes d'une nombreuse population s'appauvrissent tous les jours. L'homme est un enfant gourmand qui fait maigrir sa nourrice. Le bœuf ne rend pas à la prairie toute l'herbe qu'il lui a prise. Les cendres du chêne que nous brûlons ne retournent pas en chêne à la forêt. Le zéphyr ne rapporte pas aux rosiers et les feuilles du bouquet que la jeune fille disperse autour d'elle. La bougie qui tombe devant nous ne retombe pas en rosée de cire sur la terre. Les fleuves dépouillent incessamment les continents et vont perdre au sein des mers les choses qu'ils enlèvent à leur rivage. La plupart des montagnes n'ont plus de verdure sur leurs grands crânes chauves. Les Alpes nous montrent à nu leurs ossements déchirés. L'intérieur de l'Afrique n'est plus qu'un lac de sable. L'Espagne est une vaste bruyère et l'Italie un grand ossuaire où il ne reste qu'une couche de cendres. Partout, tous les grands peuples ont passé. Ils ont laissé la stérilité sur leurs traces. Cette terre parée de verdure et de fleurs, c'est un phtisique dont les joues sont roses, mais dont la vie est condamnée. Un temps viendra où elle ne sera plus qu'une masse inerte, morte, glacée, une grande pierre sépulcrale sur laquelle Dieu écrira « Sigille le genre humain ». En attendant, messieurs, profitons des biens que la terre nous donne, et comme elle est assez bonne mère, buvons à sa bonne existence. On en vint au jambon. Mon grand-père mangeait par devoir, parce qu'il faut que l'homme mange pour se faire du sang, et qu'il ait du sang pour faire des commandements. Benjamin mangeait pour s'amuser, mais le sergent mangeait comme un homme qui ne s'est mis à table que pour cela, et il ne sonnait mot. À table, Benjamin était un grand homme. Mais son noble estomac n'était pas exempt de jalousie, passion basse qui ternit les plus brillantes qualités. Il regardait faire le sergent de l'air de dépit d'un homme surpassé, comme César eût regardé du haut du Capitole. Bonaparte gagnant la bataille de Marengo. Après avoir contemplé pendant quelque temps son homme en silence, il jugea à propos de lui adresser ces paroles. Boire et manger sont deux êtres qui se ressemblent au premier aspect. Vous les prendriez pour deux cousins germains. Mais boire est autant au-dessus de manger que l'aigle qui s'abat sur la pointe des rochers est au-dessus du corbeau qui perche sur la cime des arbres. Manger est un besoin de l'estomac. Boire est un besoin de l'âme. Manger n'est qu'un vulgaire artisan, tandis que boire est un artiste. Boire inspire de riantes idées aux poètes, de nobles pensées aux philosophes, des sons mélodieux aux musiciens. Manger ne leur donne que des indigestions. Or, je me flatte, sergent, que je boirai bien autant que vous, je crois même que je boirai mieux. Mais pour manger, je ne suis auprès de vous qu'une mazette. Vous tiendriez tête à Artus en personne. Oh, je crois même que sur un dindon, vous seriez dans le cas de lui rendre une aile. C'est, répondit le sergent, que je le mange pour hier, aujourd'hui et demain. Permettez-moi donc de vous servir pour après-demain cette dernière tranche de jambon. Grand merci, dit le sergent, il y a une fin à tout. Eh bien, le Créateur qui a fait des soldats pour passer subitement de l'extrême abondance à l'extrême disette leur a donné comme aux chameaux deux estomacs. Leur second estomac, c'est leur sac. Alors, mettez donc dans votre sac ce jambon. Non, Machecourt ni moi ne voulons plus. Non, dit le soldat, je n'ai pas besoin de faire du magasin, moi. Les vivres viennent toujours assez. Permettez-moi d'offrir ce jambon à Fontenoy. Nous sommes dans l'habitude de tout partager ensemble, les jours de noces comme les jours de jeûne. Vous avez là en effet un chien qui mérite qu'on prenne soin de lui, dit mon oncle. Voudriez-vous me le vendre? Oh, monsieur, dit le sergent, jetant rapidement la main sur son caniche. Oh, pardon, brave homme, pardon. Pardon, désolé de vous avoir offensé. Oh, ce que j'en disais, c'était seulement pour parler. Je sais bien que proposer aux pauvres de vendre son chien, c'est proposer à une mère de vendre son enfant. Oh, tu me feras pas croire, dit mon grand-père, qu'on puisse aimer un chien autant qu'un enfant. Moi aussi, j'ai eu un caniche qui valait bien le vôtre, sergent, soit dit sans offenser Fontenoy. Sauf qu'il a fait d'autres prisonniers que la perruque du collecteur. Eh bien, un jour que j'avais l'avocat Page à dîner, il m'a emporté une tête de veau, et le soir même, je l'ai fait passer sous la roue du moulin. Mais ce que tu dis là ne prouve rien. Toi, tu as une femme et 6 enfants. C'est bien assez de besogne pour toi d'aimer tout ce monde, sans t'aller prendre d'une affection romanesque pour un caniche. Mais je te parle, moi, d'un pauvre diable isolé parmi les hommes, et qui n'a pour toute parenté que son chien. Mets un homme avec un chien dans une île déserte, et mets dans une autre île déserte une femme avec son enfant. Et je te parie qu'au bout de 6 mois, l'homme aimera le chien, si le chien est aimable toutefois, autant que la femme aimera son enfant. « Je conçois, répondit mon grand-père, qu'un voyageur est un chien pour lui tenir compagnie, ou qu'une vieille femme qui est seule dans sa chambre est un roquet avec lequel elle bavarde toute la journée. Mais qu'un homme aime un chien d'affection, qu'il l'aime comme un chrétien, oh, voilà ce que je nie, oh, voilà ce qui n'est pas possible. Et moi, je te dis que dans telles circonstances données, tu aimerais même un serpent à sonnette. La fibre aimante chez l'homme ne peut rester complètement inerte. L'homme a horreur du vide. Qu'on observe avec attention l'égoïste le plus endurci, on finira par trouver, comme une petite fleur entre des pierres, une affection cachée sous un pli de son âme. Règle générale et sans exception, il faut que l'homme aime quelque chose. Le dragon qui n'a pas de maîtresse aime son cheval. La jeune fille qui n'a pas d'amant aime son oiseau. Le prisonnier qui ne peut décemment aimer son geôlier aime l'araignée qui file sa toile à la lucarne de son cachot ou la mouche qui descend vers lui dans un rayon de soleil. Quand nous ne trouvons rien d'animé où puissent se prendre nos affections, nous aimons la matière brute. Une bague, une tabatière, un arbre, une fleur. L'Hollandais se passionne pour ses tulipes et l'antiquaire pour ses camées. En ce moment, le mari de Marnette entra avec une grosse anguille dans son sac. « Machecourt, dit Benjamin, il est midi, voilà l'heure de dîner. Si nous dînions avec cette anguille. »« Mais c'est l'heure de partir, dit Machecourt. Et nous dînerons chez Monsieur Binxit. Et vous, sergent, si nous mangions cette anguille? Moi, dit le sergent, oh, je suis pas pressé d'arriver, comme je vais pas plus là qu'ailleurs. Tous les soirs, je suis rendu à mon gîte. T'as très bien parlé. Et le respectable caniche, quelle est son opinion à cet égard? Le caniche regarda Benjamin et remua 2 ou 3 fois la queue. « Bien, alors qu'il nous dit « bon consent ». Ainsi, Machecourt, nous voilà 3 contre 3. Ah, il faut que tu te rendes à l'opinion de la majorité. La majorité, vois-tu, mon ami, c'est plus fort que tout le monde, cela. Mais 10 philosophes d'un côté et 11 imbéciles de l'autre, Les imbéciles l'emporteront. L'orgueil est en effet fort belle, dit mon grand-père. Et si Manette a un peu de lard frais, elle en fera une excellente matelote. Mais diable, et mon exploit, il faut bien que le service du roi se fasse. Fais bien attention à ceci, dit Benjamin. Il faudra indubitablement que quelqu'un me prenne son bras pour me reconduire à Clamcy. Et si tu t'affranchissais de ce pieux devoir, je ne te tiendrais plus pour mon beau-frère. Or, comme Machecour aidait beaucoup à être le beau-frère de Benjamin, il resta. L'anguille étant prête, on se remit à table. La matelote de Manette était un chef-d'œuvre. Le sergent ne se lassait pas de l'admirer. Mais les chefs-d'œuvre de cuisiniers sont œuvres éphémères. On leur donne à peine le temps de refroidir. Il n'y a qu'une chose dans les arts qu'on puisse comparer aux produits culinaires. Ce sont les produits du journalisme. Et encore, un ragoût peut se réchauffer. Une terrine de foie gras peut exister un mois entier. Un jambon peut revoir autour de lui ses admirateurs. Mais un article de journal n'a pas de lendemain. On n'en est pas à la fin qu'on a oublié le commencement. Et quand on l'a parcouru, on le jette sur son bureau, comme on jette sa serviette sur la table quand on a dîné. Aussi je ne comprends pas que l'homme qui a une valeur littéraire consente à perdre son talent dans les obscurs travaux du journalisme. Comment lui, qui peut écrire sur du parchemin, se résout-il à griffonner sur le papier brouillard d'un journal? Certes, ça ne doit pas être pour lui un petit crève-cœur, quand il voit les feuillets où il a admis sa pensée, tomber sans bruit avec ses 1000 feuillets, que l'arbre immense de la presse secoue chaque jour de ses branches. Cependant, l'aiguille du coucou allait toujours, pendant que mon oncle philosophait. Benjamin s'aperçut qu'il faisait nuit que, quand Manette vint apporter une chandelle allumée sur la table. Alors, sans attendre les observations de Machecour, qui du reste était peu capable de faire observer quelque chose, il déclara que c'en était assez comme cela pour un jour et qu'il fallait retourner à Clamcy. Le sergent et mon grand-père sortirent les premiers. Manette arrêta mon oncle sur le seuil de la porte. « Monsieur Rattray, lui dit-elle, voilà. « Qu'est-ce que ce griffonnage ? » dit mon oncle. « Le 10 août, 3 bouteilles de vin et un fromage à la crème. Le 1er septembre, avec Monsieur Page, 9 bouteilles et un plat de poisson. « Oh, mais Dieu me pardonne, je crois que c'est à mémoire. » « Sans doute, dit Manette. Je vois bien qu'il est temps de régler nos comptes, et j'espère que vous m'enverrez le vôtre ces jours-ci. » « Moi, Manette, je n'ai pas de compte à vous faire. Belle corvée, ma foi, que de toucher le bras blanc et potelé d'une jolie femme comme vous l'êtes. »« Mais vous dites cela pour vous moquer de moi, monsieur Rattray, » fit Mariette, tressaillant d'aise. « Ben, je le dis parce que c'est vrai. » « Parce que je le pense, » répondit mon oncle. « Pour ton mémoire, ma pauvre Mariette, il arrive dans un moment fatal. Je suis obligé de te déclarer que je n'ai pas un petit écu à l'heure qu'il est, mais tiens, voilà ma montre, tu la garderas jusqu'à ce que je l'ai remboursée. Ça se trouve, on ne peut mieux. Ma pute, depuis hier. » Manette se mit à pleurer et déchira le mémoire. Mon oncle l'embrassa sur la joue, sur le front, sur les yeux, partout où il put la rencontrer. « Benjamin, lui dit Manette, se penchant vers son oreille, si vous avez besoin d'argent, dites-le-moi. » « Non, non, Manette, répondit vivement mon oncle, j'ai pas besoin de ton argent. Diable, oh, ceci deviendrait grave. Te faire payer le bonheur que tu me donnes. Mais ce serait une indignité, ce serait vil comme une prostituée. » Et il embrassa Manette comme la première fois. Ouais, vous gênez pas, monsieur Ratouille, fit Jean-Pierre qui entrait. Oh, tiens, tu étais là, toi, Jean-Pierre. Est-ce que tu serais jaloux par hasard? Oh, je te préviens que j'ai une aversion profonde pour les jaloux. Mais il me semble que j'ai bien le droit d'être jaloux. Imbécile! Tu prends toujours les choses à l'envers. Ces messieurs m'ont chargé de témoigner à la femme leur satisfaction pour l'excellente matelote qu'elle nous a faite, et je m'acquittais de la commission. Mais vous aviez un bon moyen, ce me semble, de témoigner votre satisfaction à Manette. C'était de la payer, entendez-vous? Bon, d'abord, Jean-Pierre, nous n'avons pas affaire à toi. C'est Manette qui est ici la cabaretière. Quant à te payer, sois tranquille, c'est moi qui me charge de l'écho. Tu sais qu'il n'y a rien à perdre avec moi. Et d'ailleurs, si tu as peur d'attendre trop longtemps, je vais te passer de suite mon épée au travers du corps. Cela te convient-il, Jean-Pierre? Et en disant cela, il sortit. Benjamin, jusqu'alors, n'avait été que surexcité. Il renfermait tous les éléments de l'ivresse, sans être encore ivre. Mais en sortant du cabaret de Manette, le froid le saisit au cerveau et aux jambes. Holà, ma chou, où es-tu? Ben me voici, qui te tient par le revers de ton habit. Bon, tu me tiens, c'est bien, ça me fait honneur, c'est une flatterie que tu m'adresses. Tu veux me dire, je suis en état de souvenir mon hypostase et la tienne. Dans un autre temps, oui, mais maintenant, je suis faible comme le vulgaire des hommes quand il a dîné trop longtemps. Je t'ai retenu ton bras, je te somme de venir me l'offrir. Dans un autre temps, oui, dit Mâchecour, mais il y a une difficulté, c'est que je puis marcher moi-même. Alors, mets-toi forfait à l'honneur. Tu as manqué au plus sacré des devoirs. Je t'avais retenu ton bras. Tu devais le ménager pour nous deux. Oh, je te pardonne ta faiblesse. Homo sum. C'est-à-dire, je te pardonne avec une condition. C'est que tu vas m'aller chercher de suite le garde champêtre et deux paysans portant des flambeaux pour me reconduire à Clamecy. Tu prendras un bras de l'officier rural et moi l'autre. Mais il est manchot, l'officier rural, dit mon grand-père. Alors le bras valide m'appartient. Tout ce que je puis faire pour toi, c'est de te permettre de te tenir à ma queue. Tu prendras garde de défaire le ruban. Si cela, ça t'arrange mieux, monte sur le dos du caniche. Messieurs, dit le sergent, mais pourquoi chercher si loin ce qui est tout près de vous? Moi, j'ai deux bons bras que le boulet a heureusement épargnés. Je les mets à votre disposition. Vous êtes un brave homme, sergent, dit mon oncle, prenant le bras droit du vieux soldat. Un excellent homme, dit mon grand-père, prenant le bras gauche. Je me charge de votre avenir, sergent. Et moi aussi, sergent, je m'en charge. Quoique, à vrai dire, toute charge en ce moment-ci. Je vous apprendrai à arracher les dents, sergent. Et moi, sergent, j'enseignerai à votre caniche à être galissaire. Dans 3 mois, vous serez dans le cas de courir les foires. Dans 3 mois, votre caniche, s'il se conduit bien, pourra gagner 30 sous par jour. Le sergent fera sur toi son apprentissage, Mâchecour. Tu as de vieux chicots tout délabrés qui te tourmentent. Nous t'arracherons un tous les 2 jours, de peur de te fatiguer. Et quand nous aurons fini pour les chicots, nous t'arracherons les gencives. Et moi, je mettrai mon gardissaire au service de tes créanciers, mauvais payeur. Je vais t'instruire d'avance des devoirs que tu auras à remplir envers lui. Tu lui dois le matin du pain et du fromage, ou dans la saison, une botte de petite rave. Un dîner, la soupe et le bouilli, et un souper, un rôti et une salade. Et la salade peut se remplacer par un petit verre. Tu auras soin qu'il ne dépérisse pas entre les mains, car rien ne fait honneur à un débiteur comme un gardisseur bien garni, bien gras. De son côté, il doit se conduire honnêtement envers toi. Il n'a pas le droit de te troubler dans tes occupations, de jouer, par exemple, de la clarinette ou de donner du cor de chasse. En attendant, j'offre un gîte aux servants à la maison. Tu me désapprouves pas, n'est-ce pas, Machecourt ? Bon, pour préciser, bon, mais j'ai grand peur que ta chère sœur ne te désavoue. Ah, ça, messieurs, dit le sergent, entendons-nous, ne m'exposez pas à recevoir un affront, car je vous en préviens, il faudrait que l'un ou l'autre m'en fît compte. Soyez tranquille, sergent, dit mon oncle. Et si le cas excédait, ce serait à moi que vous vous adresseriez, quand pour Machecourt il sait se battre que quand son adversaire lui cède la lame de son épée et garde le fourreau. Tout en philosophant ainsi, ils arrivèrent à la porte de la maison. Mon grand-père ne se souciait pas d'entrer le premier, et mon oncle ne voulait entrer que le second. Pour arranger la chose, ils entrèrent tous deux ensemble, s'entrechoquant comme deux gourdes qu'on porte au bout d'un bâton. Le sergent et le caniche, dont l'instruction fit gronder la chatte comme une tigresse royale, tenaient l'arrière-garde. « Ma chère sœur, dit Benjamin, j'ai l'honneur de vous présenter un élève en chirurgie et un... » Benjamin s'apprête à te dire des bêtises, interrompit mon grand-père. « Ne l'écoute pas. Monsieur est un soldat qu'on nous envoie au logement et que nous avons rencontré à la porte. » Ma grand-mère était une bonne femme, mais un peu harpie. Elle croyait que de crier bien fort, ça la grandissait. Elle avait la meilleure envie du monde de se mettre en colère, et elle en avait d'autant plus envie qu'elle en avait le droit. Mais elle se piquait de savoir vivre, attendu qu'elle descendait d'un robin. La présence d'un étranger la contint. Elle offrit un souper au sergent. Celui-ci ayant refusé, et pour cause, elle le fit conduire par un de ses enfants au cabaret voisin, avec recommandation de lui donner à déjeuner le lendemain avant qu'il se remît en route. Mon grand-père pliait toujours comme un jonc, le brave homme, l'homme paisible qu'il était, quand s'élevait une bourrasque conjugale. Ce qui peut, jusqu'à un certain point, excuser en lui cette faiblesse, c'est qu'il avait toujours tort. Il avait bien vu l'orage s'amasser sur le front plissé de sa femme. Aussi le sergent était encore sur le seuil de la porte, que déjà il avait gagné son lit où il s'introduisit de son mieux. Pour Benjamin, il était incapable d'une telle lâcheté. Un sermon en 5 points, comme une partie d'écarté, ne lui pas fait coucher 1 minute avant son heure. Il voulait bien que sa sœur le grondât, mais il ne consentait pas à la craindre. Il attendait la tempête qui allait éclater avec l'indifférence d'un écueil, les deux mains dans ses poches, le dos appuyé contre le manteau de la cheminée, et chantonnante entre ses lèvres, « Pas l'eau s'en va en guerre, miroton, miroton, mirotaine, pas l'eau s'en va en guerre, savoir s'il reviendra, savoir s'il reviendra. » Ma grand-mère eut à peine éconduit le sergent, qu'impatiente d'en venir aux mains, elle vint se placer en face de Benjamin. « Eh bien, Benjamin, es-tu content de ta journée? Te trouves-tu bien comme cela? Fallait-il que je t'aille tirer une bouteille de vin blanc? » « Non, merci, chère sœur. Comme vous le dites très élégamment, ma journée est finie. Belle journée, en effet. Oh, il en faudrait beaucoup comme celle-là pour payer tes dettes. Te restait-il au moins assez de raisons pour me dire comment vous a reçu, monsieur Minxit ?»« Miroto, miroto, mirotaine, chère sœur, » fit Benjamin. « Oh, miroto, miroto, mirotaine, » s'écria ma grand-mère, « attends, je vais t'en donner, moi, du miroto, mirotaine. » Et elle s'empara des pincettes. Mon oncle recula de 3 pas et tira son épée. « Chère sœur, » dit-il en se mettant en garde, « je vous rends responsable de tout le sang qui va être répandu ici. » Mais ma grand-mère, quoiqu'elle descendît d'un Romain, n'avait pas peur d'une épée. Elle porta à son frère un coup de pincette qu'il atteignit au pouce et lui fit lâcher sa lame. Benjamin tournait autour de la chambre, serrant son pouce blessé de sa main gauche. Pour mon grand-père, quoiqu'il fût bon entre les meilleurs, il l'étouffait de rire sous ses draps. Il ne put s'empêcher de dire à mon oncle: Comment trouves-tu cette botte-là? Cette fois, t'avais bien le fourreau et la vanne. Tu peux pas dire que les armes n'étaient pas égales. Hélas, non, ma chou, elles ne l'étaient pas. Il aurait fallu pour cela que j'eusse la pelle. C'est égal, ta femme, car je ne puis plus dire ma chère sœur, mérite de porter au lieu d'une quenouille une paire de pincettes aux côtés. Avec une paire de pincettes, elle gagnerait des batailles. Je suis vaincu, j'en conviens, je dois subir la loi du vainqueur. Eh bien, non, nous ne sommes pas allés jusqu'à Corvol. Nous nous sommes arrêtés chez Manette. Toujours chez Manette, une femme mariée. Ne t'as pas honte, Benjamin, d'une telle conduite. Honte et pourquoi, chère sœur? Du moment qu'une cabaretière est mariée, est-ce qu'on ne peut plus déjeuner chez elle? Ce n'est pas là ma manière de voir, moi. Pour un vrai philosophe, un bouchon n'a pas de sexe, n'est-ce pas, ma chou? Peu que je la rencontre au marché, ta malheuriette, je la traiterai, la perdelle qu'elle est, comme elle le mérite. Chère sœur, quand vous rencontrerez Marnette au marché, achetez-lui des fromages à la crème tant que vous voudrez. Mais si vous l'insultez, eh bien, si je l'insultais, que me ferais-tu? Eh bien, je vous quitterais, je passerai aux îles et j'emmènerai ma chou, je vous en préviens. Ma grand-mère comprit que tous ces emportements n'aboutiraient à rien et elle prit de suite son parti. Oh, tu vas faire comme cette ivrogne qui est dans son lit, dit-elle. Tu as aussi besoin que lui de te coucher. Mais demain, c'est moi qui te conduirai chez Monsieur Maxit, et nous verrons si tu t'arrêteras en route. Bientôt, 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 faisait Benjamin en allant se coucher. L'idée de la démarche qu'il devait faire le lendemain agitait le sommeil ordinairement si paisible, si compact et si dense de mon oncle. Il rêvait tout haut. Et voici ce qu'il disait. Vous dites, sergent, que vous avez dîné comme un roi. Ce n'est pas cela le mot, c'est une litote que vous faites. Vous avez dîné mieux qu'un empereur. Les rois et les empereurs, malgré toute leur puissance, ne peuvent faire un extra, et vous en avez fait un. Voyez-vous, sergent, tout est relatif. Cette matelote ne vaut certainement pas un perdreau truffé. Cependant, elle a chatouillé plus agréablement vos houppes nerveuses qu'un perdreau truffé ne chatouillerait celle du roi. Et pourquoi cela? Parce que le palais de Sa Majesté est blasé sur les truffes, tandis que le vôtre n'a pas l'habitude des matelotes. Ma chère sœur me dit: Benjamin, fais quelque chose pour devenir riche. Benjamin, épouse Mademoiselle Maxit pour avoir une bonne dot. Mais à quoi cela me servira-t-il? Le papillon pour 2 ou 3 mois de beaux jours qu'il a à vivre, se donne-t-il la peine de se bâtir un nid? Moi, je suis convaincu que les jouissances sont relatives aux positions et qu'au bout de l'année, le gueux et le riche ont eu la même somme de bonheur. Bonne ou mauvaise, chaque individu s'habitue à sa situation. Le boiteux ne s'aperçoit pas qu'il va sur une béquille. Et le riche qu'il a un équipage, le pauvre escargot qui porte sa maison sur son dos, jouit autant d'un jour de parfum de soleil que l'oiseau qui gazouille au-dessus de lui sur sa branche. Ce n'est point la cause qu'il faut considérer, c'est l'effet qu'elle produit. Le manœuvre qui est assis sur son banc devant sa chaumière ne trouve-t-il pas aussi bien que le roi sur l'édredon de son fauteuil? Gros Jean ne mange-t-il pas la soupe aux choux avec autant de plaisir que le riche son potage aux écrevisses? Et le mendiant n'odeure-t-il pas aussi bien dans la paille où il s'épanouit que la grande dame sous ses rideaux de soie et entre la batiste parfumée de son lit? Un enfant, lorsqu'il trouve un liard, est plus content que le banquier qui a trouvé un louis, et le pauvre paysan qui hérite d'un arpent de terre est aussi triomphant que le roi auquel ses armées ont conquis une province et qui a fait en donner un Te Deum par son peuple. Tout mal ici-bas se compose par un bien, et tout bien qui s'étale est atténué par un mal qu'on ne voit pas. Dieu a mille moyens de faire des compensations. S'il a donné à l'un de bons dîners, à l'autre il donne un peu plus d'appétit, et cela rétablit l'équilibre. Au riche, il a donné la crainte de perdre, le souci de conserver, et au gueux l'insouciance. En nous envoyant dans ce lieu d'exil, il nous a fait à tous un bagage à peu près égal de misère et de bien-être. S'il en était autrement, il ne serait pas juste, car tous les hommes sont ses enfants. Et pourquoi donc, en effet, le riche serait-il plus heureux que le pauvre? Il ne travaille point. Eh bien, il n'a pas le plaisir de se reposer. Il a de beaux habits, mais tout l'agrément revient à celui qui le regarde. Quand le marguillier fait la toilette d'un saint, est-ce pour le saint lui-même ou pour ses adorateurs? Au reste, n'est-on pas aussi bien bossu dans un habit de velours que dans un habit de tyrtaine? Le riche a 2, 3, 4, 10 valets à son service. Eh mon Dieu! Que fait cette quantité de membres inutiles qu'on ajoute orgueilleusement à son corps, lorsqu'il n'en faut que 4 pour faire le service de notre personne? L'homme habitué à se faire servir, c'est un malheureux, perclus de tous ses membres, qu'il faut faire manger et boire. Ce riche a un hôtel à la ville et un château à la campagne. Mais qu'importe le château quand le maître est à l'hôtel, et l'hôtel quand il est au château? Qu'importe que son logis se compose de 20 chambres, lorsqu'il ne peut être que dans une seule à la fois? Maintenant, dans son château, il a, pour promener ses rêveries, un grand parc clos par un mur à chaux et à sable de 10 pieds de haut. Mais d'abord, s'il n'a pas de rêverie. Et ensuite, est-ce que la campagne, qui n'est close que par l'horizon et qui appartient à tous, n'est pas aussi belle que son grand parc? Au milieu du dit parc, un canal entretenu par un filet d'eau traîne ses eaux verdâtres et malades sur lesquelles se collent comme des emplâtres les larges feuilles du nénuphar. Mais le fleuve qui se promène librement dans la pleine campagne, n'est-il pas plus clair et plus liquide que son canal? Des dahlias de 150 espèces différentes bordent ses allées. Soit, je vous donne encore les 4 autres 100, ce qui fait 156 espèces. Mais le chemin ombragé d'ombre, d'orme, qui se glisse dans l'herbe comme un serpent, ne vaut-il pas bien ses allées? Et les haies toutes festonnées de roses sauvages, et toutes parsemées d'aubépines, les haies qui mêlent au vent leurs touffes de toutes couleurs et en jettent les fleurs sur le chemin, ne valent-elles pas bien ces dahlias dont l'horticulteur seul peut deviner le mérite? Le dit parc lui appartient exclusivement, dites-vous. Vous vous trompez. Il n'y a que l'acte d'acquisition enfermé dans son secrétaire, dont il est la propriété exclusive. Et encore, il faut pour cela que l'éthique ne lui mange pas. Son parc lui appartient bien moins qu'aux oiseaux qui font leur nid, qu'aux lapins qui embroutent le serpolet, qu'aux insectes qui bruissent sous les feuilles. Son garde-champêtre peut-il empêcher que le serpent ne s'y roule dans les herbes ou que le crapaud ne s'y tapisse sous la mousse? Le riche donne des fêtes. Mais est-ce que les danses sous les vieux tilleuls de la promenade au son de la musette ne sont pas des fêtes? Le riche a un équipage. Il a un équipage, le malheureux. Mais il est donc qu'une jatte ou paralysé? Voilà une femme qui porte un enfant sur ses bras, tandis que l'autre gambade autour d'elle, court après les papillons et les fleurs. Lequel des deux marmots est dans la plus agréable situation? Un équipage, mais c'est une infirmité que vous avez. Et qu'une roue se casse à votre voiture, que votre cheval se défère, et vous voilà boiteux. Ces grands seigneurs qui, sous Louis XIV, ne faisaient mener au bal en litière. Pauvres gens qui avaient des jambes pour danser, mais n'en avaient pas pour marcher. Combien ils devaient souffrir de la fatigue de ceux qui les portaient. Allez en voiture, vous croyez que c'est une jouissance du riche? Vous vous trompez. Ce n'est qu'une servitude que sa vanité lui impose. S'il en était autrement, pourquoi ce monsieur ou cette dame qui sont maigres comme un fagot d'épines et qu'un âne porterait surabondamment, ferait-il atteler 4 chevaux à leur carrosse? Pour moi, quand je suis sur la pelouse, dans la mousse jusqu'à la cheville du pied, quand je vais, les mains dans mes poches, au gré d'un beau chemin de traverse, rêvant et jetant derrière moi, comme un damné qui passe, les bleus flocons de ma pipe culottée, ou que je suis lentement, par un beau clair de lune, le chemin blanc que festonne d'un côté l'ombre des haies, oh, je voudrais bien voir qu'on eût l'insolence de venir m'offrir une voiture. À ces mots, mon oncle se réveilla. Quoi, dites-vous, votre oncle a rêvé tout cela et tout haut? Mais qu'a donc cela d'étonnant? Madame Georges Sand a bien fait rêver tout haut un chapitre d'un de ses romans au révérend père Spiridion. Monsieur Golbery n'a-t-il pas rêvé tout haut à la chambre pendant une heure d'une proposition sur le compte-rendu des débats parlementaires? Et nous-mêmes, ne rêvons-nous pas depuis 13 ans que nous avons fait une révolution? Quand mon oncle n'avait pas eu le temps de philosopher pendant le jour, par compensation, il philosophait en rêvant. Voilà comment j'explique le phénomène dont je viens de vous rapporter le résultat.